Alors voilà, alors Gérard, est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement toute cette histoire de mise en examen qui, bon, nous on a vu alors dans Ciné Hebdo, sur Internet, on a trouvé ça particulièrement surprenant et on aimerait bien avoir des informations complémentaires. Parce que, bon,
écoutez, c'est volontiers, ouais, merci de me donner l'occasion oralement d'expliquer ce qui est une chose qui demande un petit peu de temps, parce que comme toute affaire de droit du travail et de procédure là, ça paraît complexe. En fait, je vais vous dire, c'est très simple. Il y a une attaque patronale contre une déléguée syndicale et les patrons n'ont reculé devant rien pour arriver à leur fin et mettre en cause à la fois la déléguée et l'inspecteur du travail qui intervenait, c'était moi, pour faire respecter l'ordre public social. Alors ça remonte à 2003. Hein, on est en 2009.
Ah oui,
ça prend du temps.
Ça prend du temps.
On est dans une boîte, une entreprise de la rue de la Paix. On est au 1 rue de la Paix. Vous n'êtes pas n'importe où. Ah, hein,
c'est pas n'importe
de Monopoly. Hein. Moi, j'ai toute la rue de la Paix.
Ouais,
hein. C'est une entreprise de cosmétiques, Guinot, Marie-Cor, qui est connue dans le monde entier parce qu'ils diffusent partout.
Ouais.
Ils ont une usine et là, c'est le siège social. Il y a 300 salariés. Et jusqu'en 2003, il n'y a pas de comité d'établissement pour 300 salariés.
Ah,
ah non, il n'y a pas de syndicaliste. Il n'y a personne qui a demandé des élections.
Bon patron, certainement.
Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Alors, il y a une femme qui travaille depuis 6 ans, qui a un enfant, et revient de congé maternité. Et retour de congé maternité, il se passe, c'est là que c'est grave et intéressant, éclairant à la fois, il se passe ce qui se passe pour des dizaines de milliers de femmes. On est censé retrouver un poste identique ou similaire. Identique, c'est pas la même sens que similaire. Et donc on lui donne pas exactement le poste qu'elle avait avant en retour, parce que il se passe comme dans toutes ces boîtes, une fois que vous êtes parti en congé maternité, vous êtes plus là. Donc on va embaucher les gens, on va les prendre en CDD, en intérim, peu importe. Puis quand vous revenez, vous êtes une gêne, parce qu'il faut vous recaser. Or on vous a oublié. Et donc des tas de femmes se font avoir, hein, c'est-à-dire que elles sont mal reçues, elles reviennent, elles ont leur enfant, elles ont un état d'esprit qui a un peu évolué en 6 mois, quoi. Et là, on leur donne pas le boulot et on s'arrange pour se débarrasser d'elles, en fait. Hein. On est obligé de les reprendre, mais on fait crée une telle situation que on fait comme si on pouvait les virer. Et moi, je suis d'ailleurs pour, parce que j'ai beaucoup d'exemples autres que celui de l'affaire Guinot, que il y a une loi qui impose le retour dans un poste identique, pas similaire. Et la deuxième chose, qui protège la femme au moins, moi je dirais entre 12 mois et 18 mois après son retour de congé de maternité, qu'on ne puisse pas la licencier. De toute façon, elle a imposé à l'employeur de prévoir son retour. Parce qu'en fait, il ne prévoit pas le retour. Et c'est donc vécu comme une charge, et c'est donc l'occasion de se déplacer. Moi, j'ai vu des grands magasins, ils mettaient la femme qui était à temps partiel, quand elle revenait, ils la mettaient aux heures où il fallait qu'elle aille chercher son boum à la crèche, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que avant, elle était 9h midi, là, il la mettait 19h, 21h, sans scrupule, quoi. Bon. Et j'ai vu des chefs du personnel qui disaient, je peux pas la causer autrement, hein. Sinon, faut que je dégage un tel ou un tel. Donc, elle était, voilà.
Oui, elle est pénalisée systématiquement.
Il faut protéger davantage les femmes de retour de congé maternité. Bon point. Là, dans le cas de l'affaire Guinot, cette femme était d'origine arabe, elle parlait arabe, elle était une cadre commerciale très bien notée, très appréciée.
Oui, en plus, elle avait un métier assez
particulier. Et elle diffusait les produits et dans toute la grande région, Moyen-Orient, Moyen-Orient. Et il la met au retour, je crois que c'est quelque chose comme Amérique latine et Pacifique, quoi.
Oui, alors qu'elle parlait arabe.
C'est pas le même métier, elle n'a pas les mêmes coordonnées, elle se retrouve pas, faut qu'elle passe deux fois plus de temps, etc. Donc c'est un tracassin. Ils ont pris quelqu'un pendant son absence qu'ils ont juste titularisé avant qu'elle revienne. Il y aura quand même des vacances de poste, mais ils y mettront des intérimaires et pas elle. Bon. Au lieu d'arranger, en fait, il la charge, quoi. Voilà. Bon. Alors, elle vient dans mon bureau. Je suis inspecteur donc de l'entreprise, et puis je fais une belle lettre du genre attention, c'est une femme de retour de congé maternité, mais j'ai pas de moyens de pression, hein, par malaise.
Ouais.
Alors, elle se syndique. Elle se fait d'ailleurs désigner déléguée syndicale. CGT. Et sur mes conseils, d'ailleurs, elle demande des élections. Comité d'établissement. La boîte fait d'ailleurs un premier mouvement du genre je ne veux pas, dans un deuxième mouvement, ça c'est à l'oral, hein. Ils essaient de voir s'ils ne peuvent pas la licencier avant de faire les élections. Bon, finalement ils s'inclinent, ils vont faire des élections, on est fin 2003. Il y a un comité d'établissement parce que je l'ai demandé. Pour bien comprendre pour la suite. Il s'arrange pour qu'elle ne soit pas élue. Alors comment il s'arrange ? D'abord, il ne modifie pas les collèges. C'est-à-dire que les collèges prévoient qu'il y a plus de place pour les salariés, employés ou ouvriers, mmh. et moins pour les cadres. Là, on est à un établissement où il n'y a que des cadres. Donc ils vont pas demander à élargir le nombre de places pour les cadres. Ils vont garder pour qu'il y ait deux places de titulaires, de façon à ce qu'elle ne soit pas élue. Et ils s'arrangent pour présenter deux salariés à eux, quoi. Hein, veut dire avec lesquels ils sont la main dans la main, comme la suite va le raconter. Va le prouver. Le CE ne fonctionnera pas d'ailleurs, il ne fonctionne pas, il n'a pas d'ordre du jour véritable, mmh. il n'a pas une activité de comité d'entreprise, je crois même qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de local de CE. Hein? Enfin, c'est deux personnes, quoi, entre les mains de la direction, ça arrive malheureusement,
oui,
c'est
ce qu'on appelle
les CE bidons. Hein, mmh. Bon. Des mois s'écoulent, et puis finalement, ils demandent l'autorisation de licenciement de
cette jeune femme.
Pour des prétextes de boulot, elle bosse pas bien dans son nouveau secteur, voilà, bon. Alors, moi je refuse, en disant, c'est une femme de retour de congé maternité, vous devez lui retrouver un poste, j'insiste sur l'identique, voilà, vous faites un tracassin, donc je refuse. Et ils font un recours. Alors le directeur qui est au-dessus de moi dit, ah, on peut pas vraiment défendre sur le congé maternité, mais regarde, ils ont pas consulté le CE. Forcément, le CE fonctionne pas, ils n'ont pas consulté. Alors c'est une mesure substantielle, et donc on va casser la décision, non pas sur le retour de congé maternité, sur le CE. Alors moi j'ai un désaccord avec ce choix, je dis, écoute, fais pas ça, parce que tu vas voir ce qui va arriver. Et le patron a refait la procédure en consultant le CE. Donc en consultant les deux personnes qui ont fait un avis favorable au licenciement, et il m'a redemandé une deuxième fois l'autorisation de licencier la fille. Et moi j'ai attendu parce que j'avais des délais, et avant que les délais soient totalement finis, en fait j'étais au stade d'un rejet implicite en fait à ce moment-là, ils ont trouvé un troisième motif pour la licencier. Ils ont fait une troisième procédure. Alors, il faut bien écouter, parce que souvent les gens ne croient pas que ça soit possible ce que je vais raconter, mais je vais vous le raconter. Mmh. Cette femme avait droit à des congés, évidemment. Elle prend donc 8 jours en juin. Elle les demande par mail vers le mois de mars, plus de 2 mois avant. Pas d'obstacle. Elle a 8 jours avant de partir en congé, elle dit, attention, service, la prochaine fois, la semaine prochaine, je suis pas là. Comme elle avait déjà plein de tracassins, plein de demandes d'autorisation de licenciement, je vous dis pas. Elle part en congé. Et un jour après, il y a l'employeur qui l'appelle, qui dit, mais vous n'avez pas rempli le bon d'autorisation de votre chef de service pour prendre vos 8 jours. Alors, faut savoir que le bon n'a qu'un aspect formel, puisque tout le monde sait qu'elle doit prendre ses congés, personne ne les discute, mais il y a une formalité qui n'a pas été remplie. Alors, elle dit, mais si, vous vous trompez, elle est remplie. La seule chose, c'est que je l'ai chez moi, le bon. Je l'ai. Alors, l'employeur lui envoie un huissier le lendemain. Pendant son congé pour récupérer le bon. Elle le donne, enfin copie du bon d'ailleurs. Et quand elle revient, il la convoque un entretien nouvel entretien, de licenciement pour faute lourde, en l'accusant d'avoir imité la signature du chef de service pour faux en écriture. Ils ont entre-temps interrogé un graphologue, expert, qui a dit, ça n'est pas la signature du chef de service. Et ils la mettent à pied immédiatement, pour faute lourde, à les virer de l'entreprise immédiatement. Alors vous savez que dans ce cas-là, les gens ne savent pas tous, mais il y a un article dans l'ancienne numérotation qui est R436-8 qui dit que toute la procédure doit se tenir en 10 jours. C'est-à-dire que le CE doit être consulté en 10 jours, l'ensemble, parce que quand il y a mise à pied, ça ne peut pas être de 10 jours. Heureusement qu'il y a quand même ça dans le code. Mm-hmm. Et le CE devait se tenir le 3 juillet, on était en juin 2003, le 3 juillet 2003.
Pas de salaire pendant...
Il ne se tient pas forcément, il ne fonctionne pas. Mm-hmm. Ni le 4, ni le 5, ni le 6 juillet. Le salarié vient me voir quand même, je ne me rappelle plus, à peu près le 8-10 juillet, elle me dit, écoutez, monsieur l'inspecteur, je suis à pied, j'ai pas eu tout mon salaire fin juin, qu'est-ce que je fais pour juillet? Alors j'appelle la boîte, j'ai dit, écoutez, faut que vous convoquiez le CE, parce que c'est une formalité nécessaire, que vous me demandiez l'autorisation, dépêchez-vous, parce que vous êtes en retard. On est dans une situation d'illégalité, l'ordre public est foulé aux pieds, puisque les 10 jours sont dépassés. Ils vont traîner encore, ils vont convoquer le comité d'entreprise que le 24 juillet. Moi, je m'en vais en vacances le 26. Ils sont programmés, je m'en vais en août. Droit démocratique, on les a gagnés depuis 70 ans. Hein. Je m'en vais. Alors, si je m'en vais comme ça, sans pouvoir... elle n'est pas payée fin juillet, elle n'est pas payée fin août. Ça veut dire que je vais faire mon enquête contradictoire d'après les normes classiques, je convoque les gens dans mon bureau début septembre, et qu'elle aura son salaire quand tout sera fini fin septembre. Elle est 3 mois sans salaire, la fille. Alors, elle me dit, je peux pas. Voilà, faites quelque chose. Donc, pour, je suis bien dans un cas de violation de l'ordre public par l'entreprise. Hein. Les 10 jours, le délai sont dépassés. Et moi, je suis un agent de répression. J'ai la charge de rétablir l'ordre public. Quand j'apprends qu'il finalement il convoque le CE le 24 juillet, la veille de mon départ, je me dis, je vais tout faire à la fois. Je vais aller dans la boîte. Je vais faire mon enquête contradictoire, écouter tous les sur ce qui est reproché à la fille. Je vais voir le directeur qui va me confirmer parce qu'il m'avait rien dit qu'il veut la licencier. Je saurai l'avis du CE parce que je le sais déjà puisqu'ils ont déjà voté les coups précédents. Et j'aurai mes 3 éléments. Je fais ma décision demain avant de partir. Elle va être payée fin juillet. Je devrais être décoré pour ça. Hein. Je le dis parce que la solution de facilité, c'était de ne pas faire ce que j'ai fait ce jour-là. C'était de partir en vacances et puis au retour, je faisais les choses comme je l'avais
fait d'habitude.
Mais là, j'ai jugé accident de circonstance. Ouais. Je le répète, où l'ordre public était troublé, l'entreprise était dans une situation d'illégalité. Il fallait que je répare cette illégalité en rétablissant la salariée dans ses droits. Je vais donc dans l'entreprise une demi-heure, je me fais accompagner, j'ai une contrôleuse du travail avec moi. Je rentre dans une pièce qui est celle du bureau du directeur et je demande, je dis voilà, moi vous avez fait tout ça, moi je veux réunir tous les éléments ce matin, pas de temps à perdre, donc je veux voir un certain nombre de gens pour les interroger, et ça se passe dans le bureau du directeur. Alors, vous savez que c'est substantiel, c'est un CE qui se passe dans le bureau du directeur, il y a déjà un problème, hein, et la jurisprudence le dit. Deuxième chose, on va être ce matin-là, parce que j'anime l'enquête contradictoire, on va être jusqu'à 9 dans la pièce, parce qu'il y a le directeur qui reste avec son adjoint, il y a une autre d'ailleurs qui est là, je ne sais plus très bien, il y a la salariée déléguée syndicale, il y a ma contrôleuse, il y a moi, il y a les deux membres du CE, et je fais venir une ou deux autres personnes, je vais vous dire, raconter. Alors, on ne peut pas dire qu'on assiste au CE. Parce que c'est 9 personnes qui rentrent dans un CE de 2. Excusez-moi. À la limite, on peut dire que c'est les deux membres du CE qui assistent à l'enquête contradictoire. Mais pas qu'on assiste au CE à 9. Parce que, bon. Deuxièmement, personne ne s'oppose à la procédure. Il y a une partie des gens dans la salle la comprennent pas bien parce qu'ils sont pas informés en droit du travail. Mais je fais une enquête contradictoire dans une circonstance exceptionnelle. Alors, le CE va se réunir d'un certain point de vue. C'est-à-dire que moi, je vais veiller à ce que, puisqu'ils doivent voter, à ce qu'ils sortent de la pièce. Ils vont sortir 10 minutes, ils vont aller voter à bulletin secret, hein, les deux, voilà, et ils vont revenir, évidemment, et le bulletin vont dire avis favorable au licenciement de la salariée, et moi, dans le reste du temps, je pose des questions à deux personnes, surtout auxquelles j'avais besoin de réponses. La première personne, c'est le chef de service, concerné par la signature. Est-elle vraie, est-elle fausse ? Hein, la salariée dit que c'est la signature du chef de service. Le graphologue, commandé par le patron, dit que c'est pas le cas. Que dit le chef de service ? Et devant moi, et les 6 ou 7 autres personnes qui sont là à ce moment-là, le chef de service vient, regarde la feuille. J'ai dit, monsieur, je vous pose la question, est-ce que c'est votre signature ? Il la regarde et il dit, je sais pas. Je dis, comment vous savez pas ? Il dit, non, je ne me souviens pas. Je dis, comment vous vous souvenez pas ? Il me dit, je ne sais pas si je l'ai signé ou pas signé, mais il dit, c'est votre... Vous regardez, vous connaissez votre propre signature, vous tout de même. Il me dit, ça pourrait l'être, comme ça pourrait ne pas l'être. Bon, moi je trouve que mieux qu'un graphologue, c'est quand même celui qui est concerné. Hein. S'il il dit, c'est pas un faux, il dit pas, c'est pas vrai, on l'a imité, il dit, je sais pas, en présence du patron, il est subordonné quand même, je vous dirai ça parce qu'il a été viré 6 mois plus tard. Bon, je vais venir à une autre salariée, parce que j'avais eu comme je connaissais quand même 8-10 salariés dans la maison et on m'avait donné quelques tuyaux. C'est mon boulot, hein, d'enquêter. J'ai mis un autre salarié qui a pris 8 jours de congé en juin. Et je lui dis, mais est-ce que vous avez rempli un bon ? Puisque ça paraît si important que ça, remplir des bons dans cette entreprise, du chef de service avant de partir en congé. La fille me dit non. Je lui dis, mais on vous a fait des ennuis quand vous êtes revenu. Non. Bon, l'affaire était claire, pour moi la discrimination était établie, le faux en écriture ne l'était pas, graphologue ou pas graphologue, et donc je prends avant de partir en vacances, je prends mon refus d'autorisation, je l'envoie aussitôt parce qu'il faut le faire frapper par ma secrétaire, non mais c'est pour qu'il parte dans les délais, pour qu'elle soit payée en juillet, moi je pars en vacances. Tout ça me sort de la tête, je vous le dis franchement, quand je reviens, quoi. Bon. À tel point, je ne verrai d'ailleurs même pas le compte-rendu de CE, dont j'aurai connaissance beaucoup plus tard, fait par le seul membre du CE qui dit « L'inspecteur du travail s'est invité au comité d'entreprise et a fait pression sur lui pour qu'il ne rende pas un avis favorable au licenciement de... » ça, comme ça me concerne pas, moi, l'affaire est claire, pour moi, elle est passée. Je veux dire, tellement limpide comme infraction patronale, franchement. Bon. Et sur cette base-là, le directeur général du travail, dont on va reparler, M. Combrexel, casse ma décision et dit que ça ne s'est pas fait dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'abord la consultation du CE, puis la demande d'autorisation, puis l'enquête contradictoire, et donc je casse la décision de l'inspecteur du travail, sur la forme. Mmh. Alors moi, j'ai bien expliqué que nous étions dans une situation d'illégalité et que l'ordre public social était en cause. Je voulais le rétablir. Bon. Et la fille est licenciée. Elle reste licenciée. Tout commence lentement ensuite. On convoque à des policiers au château du Rentier pour chantage sur un CE. Sur la convocation. Alors franchement, je tombe des nues, je ne me rappelle même plus de quelle entreprise il s'agit. À l'époque, on est déjà en 2006-2007. J'y vais pas. Et finalement, un juge d'instruction me convoque le 7 mars 2007. Je revenais juste de Périgueux, du jugement de l'assassin de nos deux collègues qui avaient été assassinés le 2 septembre 2004 à Soussignac en Dordogne. Et l'assassin a été condamné à 30 ans. J'arrive en bureau du juge et on m'interroge pour chantage sur le CE. Alors, vraiment, écoutez, vous pouvez réfléchir en droit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le juge me pose des. C'est le juge Yves Madre. C'est celui qui avait perquisitionné au syndicat des avocats de France, sans avoir consulté le bâtonnier, informé le bâtonnier avant. Il avait fait un scandale quelques années plus tôt. Enfin, bon, peu importe. Ce n'est pas croisé. Bon. Il me fait 5 heures de questions, 5 heures d'interrogatoire. Mon avocat, parce que j'étais témoin assisté, s'endormait sur mon épaule. C'était long. Et alors, je comprends pourquoi, parce qu'il fait des questions fermées. On répond par oui ou par non.
Ah, oui, d'accord.
Alors, c'est comme à la bataille navale avec ce jeu-là. Vous savez, faut faire C4, C5, C3 avant d'arriver à C2 pour dire toucher, couler, c'était la bonne question et j'ai la bonne réponse. Et au bout de 3-4 heures, je commence à comprendre quelque chose. Un point de droit que le juge ne savait pas, mais je lui en veux pas. Tout le monde n'est pas obligé de connaître en détail le droit du travail. Et le point de droit, c'est qu'il pensait que ma décision était tenue par l'avis du CE. C'est que si l'avis du CE rendait un avis favorable, moi, inspecteur, je devais rendre un avis favorable. Et donc, j'étais venu dans la réunion pour que le CE ne rende pas un avis favorable. Tout ça, c'est cool quand je lui dis que je savais d'avance qu'il allait rendre un avis favorable. Il l'avait déjà fait, dans le cas précédent, que ça n'était pas pour moi l'élément. L'élément, c'est qu'il fallait qu'il rende un avis parce que c'était substantiel, parce que si on avait déjà cassé une décision pour cela, et il fallait que moi, je donne la réponse dans cette circonstance exceptionnelle, voilà. À ce moment-là, il y avait un petit effet spectaculaire parce que je vois le juge se renverser du genre, il n'avait plus d'argument. Je veux dire, ah bon, c'est ça. Du coup, il ne me met pas en examen. Je sors de ces 5 heures, je ne suis pas mis en examen. Et donc, l'affaire traîne. Je crois d'ailleurs qu'elle est finie. Je vais vous raconter pourquoi. Le temps s'écoule, mais le juge fait quelque chose. Il interroge par lettre le directeur général du travail, Jean-Denis Combrexel, retenez toujours bien son nom, parce qu'il me fait de la publicité, mais je vais lui en faire. C'est le directeur général du travail, c'est le plus haut gradé au ministère du travail. Vous ne pouvez pas avoir plus. Hein. Xavier Bertrand l'a félicité pour son travail là quand il a quitté le ministère pour être remplacé par Hortefeux.
Il est nommé par qui ce directeur?
C'est un haut fonctionnaire. En vérité, il est arrivé. Il était au cabinet de. Il était à la justice avec Elisabeth Guigou.
D'accord.
Ensuite, quand Guigou est venu au travail, il l'a suivi, l'a nommé directeur général du travail, et il est resté sous la droite qu'il a fidèlement servi pendant toute cette période-là. C'est le plus haut fonctionnaire. Et c'est lui qui a fait la recodification du code du travail. C'est lui qui a nommé la commission sous les ordres de Gérard Larcher. C'est lui qui a fait le boulot, suivi le boulot et tout, et contre lequel je polémique pratiquement tous les soirs depuis pratiquement 2 ans contre la recodification. Hein. J'ai même signalé quelque chose. C'est pas moi d'ailleurs, je ne le savais pas. C'est Liaison sociale. Un journal quand même, qui a dit que pendant cette période, il mangeait chaque mois avec Denis Gauthier-Sauvagnac. Jean-Denis mangeait avec Denis. ils ont le droit. Hein. Et tout le monde a le droit d'en penser ce qu'il veut aussi. Hein. Voilà. Bon. Jean-Denis Combrexel, donc, répond au juge. Le juge lui pose des questions, 4 questions, ça c'est maintenant public, sur est-ce qu'un inspecteur du travail peut aller à un comité d'entreprise. Alors, le juge Madre me dit, attention monsieur Filoche, ne vous trompez pas, je n'ai pas interrogé votre directeur général sur votre cas. Je ne l'ai pas interrogé sur l'affaire Guinot. Je l'ai interrogé en droit pur. est-ce que un inspecteur peut aller, etc. Et comme par hasard, Jean-Denis Combrexel, qui n'a pas dû se douter une seule seconde que ça me concernait, explique dans la réponse que c'est un scandale si un inspecteur va, c'est une preuve d'incompétence, ou c'est une faute grave, etc., etc. Alors, le Parisien qui a annoncé ma mise en examen à la mi-janvier, le journaliste a été malhonnête, ou le maquettiste, ou le rédac-chef, probablement le rédac-chef, puisqu'il a, il met un trophilé, faute incompétence professionnelle. Citant la lettre de Combrexel. Dans l'article qui me concerne. Mais la lettre de Combrexel, pourtant, ne me concerne pas. Elle ne me vise pas, mon cas. Elle ne vise pas la situation d'illégalité et de rétablissement de l'ordre public social dans laquelle je me trouve. Enfin, il fait le croisé. Voilà. Et il ne sera pas le seul, le journaliste parisien, à faire ça, puisque, en fait, avant lui, un procureur le fait. C'est-à-dire qu'un procureur, je ne sais pas, voit l'accusation de chantage, il a à faire savoir s'il me poursuit ou pas, et choisit de me poursuivre, non pas sur chantage, mais sur ce qu'on appelle un réquisitoire supplétif pour entrave au comité d'entreprise. Il laisse tomber l'accusation de chantage, et il poursuit pour entrave au comité d'entreprise sur la base de la lettre de Combrexel. D'ailleurs, il fait ça, tenez-vous bien, en 2008, c'est-à-dire 4 ans après. C'est-à-dire que la première procédure est engagée, d'ailleurs je le signale au passage dans un délai de prescription correct, avant 3 ans. La deuxième, Allez, presque 5 ans après, hein, 2003-2008, voilà. Et après, je m'interroge pour les juristes, j'appelle les juristes dire, qui m'entendent, parce que est-ce que le procureur peut se substituer ainsi? Apparemment, oui. Dans des délais comme cela, oui. Sur la base de quoi? D'une plainte initiée par l'employeur qui dit qu'il y a entrave au CE. Mais attendez, chantage. C'était une expression vague, indéfendable, mais bon. Mais entrave au CE, c'est le CE est une personne morale. Si le CE se plaint d'une entrave, c'est au CE de le faire, pas à l'employeur.
Ah, oui.
L'employeur n'est pas habilité à ester en justice à la place du comité entreprise. Eh ben, le procureur, malgré tout, dit voilà, je poursuis l'inspecteur du travail pour entrave au comité d'entreprise. Alors, franchement, entrave au comité d'entreprise, on est des dizaines à s'être penchés sur les textes. Ça n'existe pas depuis 60 ans qu'il y a des comités d'entreprise. J'ai consulté Maurice Cohen, qui est un homme tout à fait respectable, qui a écrit le dictionnaire des comités d'entreprise depuis l'après-guerre mondiale. Il est âgé aujourd'hui, mais il a tous les 2 ans, 3 ans, c'est le spécialiste le plus reconnu. Il m'a envoyé un mot de solidarité en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Un inspecteur du travail qui fait entrave au comité d'entreprise. Bah, écoutez, on peut dire il y avait des personnes extérieures, on peut ne pas venir, mais il n'y a aucun texte, parce que on peut la discuter sur le fond, la position de Combrexel. Il n'y a aucun texte qui interdit à l'inspecteur du travail de venir dans un comité d'entreprise. Il y a même des textes qui prévoient parfois que en cas de carence, l'inspecteur du travail se saisisse et préside le comité d'entreprise pour le faire fonctionner. C'est une circonstance exceptionnelle, ça n'était pas le cas ici. Mais il n'y a rien qui dit. Moi, je suis dans une entreprise, je la visite, j'ouvre une porte, il y a un CE, je peux rentrer, dire bonjour, s'il y a un point qui concerne, y assister, puis sortir. Rien ne l'interdit. Rien. C'est une action en opportunité de l'agent de contrôle et qui peut le faire. Bien sûr, il peut le faire. Bon. Donc, Combrexel, c'est avancé en droit, mais parce qu'en fait, il y avait une arrière-pensée. Et c'est pas vrai qu'il ignorait totalement que ça me concernait, bien que la lettre soit totalement disjointe de mon dossier, mais comme c'est elle qui donne la base au procureur pour faire le réquisitoire supplétif, on permettrait de, sans accuser quiconque de complot, de penser qu'il y a une recherche particulière me concernant, n'est-ce pas? Bon. Alors, est-ce que j'avais un intérêt à faire entrave au CE, même si on prend au pied de la lettre, fouillons, creusons, quoi, en rien. Excusez-moi, j'en avais rien à faire du CE. Je savais que c'était un CE bidon de 2 membres qui allait donner l'autorisation, l'avis favorable. Voilà. Loin de moi d'avoir la... Bon. Alors, il paraît que dans la matinée, j'aurais tenu un discours un peu fort, etc., que les gens ont dit que je faisais pression et tout. Bon, peut-être je suis intimidant. Mais, je le dis toujours à mon boulot, autant je suis vif, si j'ose dire, dans le ton, dans l'expression publique, politique, syndicale. Autant dans mon boulot, les gens ne me connaissent pas bien parce que je suis plutôt, je le dis à ma façon, inspecteur Colombo, quoi. J'ai un profil bas, je pose les questions, j'ai pas besoin de me fâcher avec quiconque, je fais du droit, et j'applique ce droit. Donc ce matin-là, c'était comme ça. Alors, les assistants sont partagés, la contrôleuse a dit, mais Filoche a été tout à fait sage, la salariée est tout à fait sage, il y a même une autre personne que je me rappelle plus dans la confrontation qui dit, mais non, il a pas haussé le ton, et les deux personnes concernées disent, mais si, il a haussé le ton, il nous a mené menacer. Oh. Et j'ai lu que le procureur reprenait l'idée que j'aurais menacé le CE de le porter plainte pour harcèlement moral. Je ne sais même pas comment une phrase comme ça peut être reprise par un procureur. Elle ne peut pas franchir mes lèvres. Je sais trop bien que je n'en ai pas le droit, que je ne peux, pourrais pas... Je suis un juriste. Je ne peux pas prononcer des phrases comme ça. Je n'ai rien contre le CE particulièrement. J'avais des arrière-pensées sur les deux personnes qui le composaient. Et je savais pourquoi elles agissaient. Mais bon, je pense que ces deux personnes d'ailleurs devaient être mal dans leur peau. De faire le boulot qu'elles faisaient à ce moment-là pour le patron, pour virer la salariée. Mais c'est pas parce qu'elles étaient mal dans leur peau qu'elles doivent mal interpréter le climat de l'enquête qui était la mienne. Et en plus, je suis un agent répressif. Je suis perçu comme un inspecteur. Je suis pas lambda, quoi. Je viens pour poser mes questions. En général, j'ai mal perçu le juge quand il m'a posé. Je comprends bien qu'on puisse aussi mal me percevoir quand j'essaie de faire éclater la vérité. Bon, je dis ça parce qu'en fait, il y a une banalité là-dedans, et on cherche maintenant à creuser, à retransformer cette matinée-là. La justice parfois est une mise en scène d'une réalité qui n'existe pas. Et là, je le ressens à vif, quoi. Mon boulot ce matin a été banal, normal. Et il est devenu maintenant, avec des projecteurs, redécortiqué avec d'autres regards et travesti. J'insiste bien sur cet aspect. Ça arrive souvent, les justiciables le ressentent souvent. Comme je suis dans la peau d'un justiciable, un peu particulier parce que je suis protégé par une convention internationale. J'ai l'Organisation internationale du travail, numéro 80. Je suis théoriquement indépendant des pouvoirs en place. Je suis un inspecteur du travail. Si on se met à poursuivre tous les inspecteurs du travail maintenant, quand ils ont un mot de trop... je vais en donner deux exemples. Avant d'en venir à mon affaire, puis je vais vous donner un scoop, enfin un probable scoop, mais vous allez voir. D'abord, il y a deux autres de mes collègues qui ont subi un sort similaire. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Il y a dans les Vosges, il y a un de mes collègues, Bernard Anstett, je le salue s'il m'écoute, s'il parvient à écouter. Il a fait un procès verbal parce qu'il n'y avait pas de comité d'établissement dans une entreprise qui s'appelle Forestia. Le procureur l'a classé sans suite. Deux mois après, le même procureur interpelle mon collègue et lui demande un avis sur un accident du travail, je ne sais plus. Et mon collègue lui répond assez sèchement en disant, écoutez, ça va, ne demandez pas un avis. Moi, quand je vous ai fait un procès verbal, vous l'avez classé sans suite, c'était sérieux, pourtant vous êtes incompétent, je n'ai aucune envie de vous répondre. À peu près, hein. Et le procureur le poursuit pour outrage à magistrat. Deux mois avec sursis, machin, etc. Et mon collègue a été condamné à 700 euros d'amende pour outrage à magistrat. Ouais. Enfin bon, quand même pas exagéré, quoi. Ouais. Il faut savoir que trois procès-verbaux sur quatre de l'inspection du travail sont classés sans suite. Poubelle. Bon, à tel point que ça fait diminuer le nombre de procès-verbaux. Parfois, on nous reproche d'en faire de moins en moins, mais parce que parfois c'est une masse de travail pour un résultat qui est aléatoire. Donc, si on peut obtenir en partie le droit sans faire le procès-verbal, on s'efforce, quoi. Parce que on dit parfois vous faites du chantage à l'employeur. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup travaillé parce que c'est vrai qu'on menace un employeur de faire un procès-verbal que parfois on ne fait pas. Est-ce que c'est du chantage? Alors là, on est comme Monsieur Jourdain, hein. On fait du chantage depuis toujours, hein. On menace et on fait pas le PV. Et par contre, on a un bout de satisfaction, il va arranger une situation ou un tiers ou deux tiers de situation. On n'a pas fait le PV, mais quand même, il y a un peu d'ordre public social qui est rétabli. Là, c'est comment le parquet qui n'a pas le temps, dit-il, ni les moyens, disent-ils, de suivre nos procès-verbaux, comment trouve-t-il le temps d'attaquer un de mes collègues deuxième cas, c'est un contrôleur des transports qui s'appelle Alan Flicotto. Il est contrôleur du transport dans le 92. Il fait un contrôle dans une entreprise, il voit plein d'observations, des choses qui ne vont pas, il les fait par lettre, comme on doit faire, et une salariée vient le voir parce qu'elle se plaint de son employeur et il lui donne la lettre, il dit bah voilà les observations que j'ai fait à votre patron. Le patron porte plainte auprès du parquet, se porte partie civile, pour pas qu'elle soit classée, parce que le contrôleur a communiqué la lettre qui lui était adressée à la salariée. Alors il faut savoir qu'en droit, il a pas tort, parce que on ne peut pas communiquer une pièce administrative, c'est une lettre de contrôleur ou de l'inspecteur au patron. Ce qu'on peut faire, c'est quasiment recopier la lettre, en disant, madame la salariée, vous m'avez interrogé sur ma visite, voilà les points que j'ai relevés, et même que j'ai adressé par lettre à votre employeur, veuillez agréer, madame, c'est une lettre à la salariée qui redit ce qu'il y a à l'employeur, mais ce n'est pas la lettre qu'on a adressée à l'employeur qu'on donne à la salariée. Le droit est ainsi. Bon, alors, Voilà. Bon, sans doute mon collègue n'avait pas tout à fait raison, mais pourquoi le poursuivre? Parce que est-ce que c'est une priorité de la République aujourd'hui? Quand on classe trois procès-verbaux contre des employeurs délinquants, ils vont à la poubelle. Et on va poursuivre mon collègue parce qu'il a donné, il a gagné du temps en donnant la photocopie de la lettre au lieu de la réécrire sous une autre forme. Bon, je prends ces exemples-là parce que puisqu'il s'agit d'opportunités dans la suite du droit du travail, dans le droit pénal du travail. Alors, pourquoi classe-t-on 3 PV sur 4 et pourquoi trouve-t-on le temps et les moyens de poursuivre des inspecteurs? Je dis que ce n'est pas un hasard aujourd'hui que ces trois cas se soient succédés. Ouais. Et je ne suis que le troisième parce que après, moi, je ne veux pas personnaliser... Je sais bien que parfois je peux être parano, qu'on peut me chercher plus parce que je parle plus, comme là. Hein, on me cherche plus parce que je parle plus. mais je ne suis qu'un parmi mes collègues et pas le seul dans ce cas-là. Alors maintenant, je vais vous dire les développements, enfin les plus récents. Vous savez que la salariée, la boîte, la poursuit en pénal. Elle est licenciée, hein, mais la poursuit en pénal pour faux en écriture. C'est-à-dire, c'est une autre procédure. C'est quand même vous dire l'acharnement, hein, parce que il était déjà visible en 2003, mais on est en 2009. Et la dernière confrontation, sous l'autre juge, je ne sais pas son nom, avec le chef de service, 4 ans plus tard, voilà, semblerait, je dis bien au conditionnel, tant de savoir, c'est dans l'instruction, mais... Vous savez que dans ce pays, les secrets de l'instruction circulent avant que l'instruction soit close. J'en ai été victime, mais apparemment, on me dit quelque chose que le chef de service reconnaisse qu'il avait donné l'autorisation. Alors, ça, si ça se confirme, il est plus dans l'entreprise, mais si ça se confirme, c'est à mon tour de me réserver toutes les suites, parce que là, si le complot est établi depuis l'origine, si l'employeur a exigé de son chef de service qu'il ne dise pas que c'était lui qui avait signé, si l'employeur a réussi à licencier la femme en question, et depuis 4 ans de procédure, ses frais de justice, tout ça, voilà, alors là, je laisse des points de suspension parce que moi je ne peux pas anticiper, je ne suis pas dans une situation juridique qui me le permet. J'aimerais bien que l'instruction se fasse à charge et à décharge, quoi. C'est-à-dire, bon, moi j'aimerais bien qu'on regarde le fonctionnement des institutions chez Guinot aujourd'hui. Parce que, pour vous dire, je suis allé à nouveau, j'avoue, dans l'entreprise en juillet 2008. J'y suis allé parce que, pour deux raisons. La première, c'est que j'étais convoqué. C'était un comité hygiène, sécurité, conditions de travail, l'inspecteur du travail est concerné. Et je pensais que l'affaire était close. Hein, je vois le juge le 7 mars 2007. En juillet 2008, je crois que c'est fini. Je reçois la convocation, je dis tiens, je vais y aller. Et je vais vous raconter ce qui se passe. C'est un CHSCT. J'arrive dans le bureau du directeur. Le directeur est parti aussi, il a été viré. C'est une directrice. Et la femme me regarde avec des grands yeux, elle me dit, monsieur l'inspecteur, ben, je dis oui, je viens pour le CHSCT. Voilà votre lettre, vous m'avez convoqué. Ah! Il y a un CHSCT aujourd'hui. Voilà. Elle dit, ben, je vais chercher monsieur, c'est l'homme qui avait signé le, voilà, dans l'établissement. Ben oui, c'est lui qui est c'est quasiment le seul membre du CHSCT aussi, hein, je le dis tout de suite. Et donc, on cherche dans l'établissement, il n'est pas dans l'établissement. Et donc, il n'y a pas de CHSCT. Donc, je viens, je constate qu'il n'y en a pas, quoi. Si je n'étais pas venu, j'aurais reçu une lettre en disant, voilà, le CHSCT s'est déroulé, voilà l'ordre du jour, il y avait trois lignes, puis c'était tout. Bien entendu, toute l'institution est bidon. Alors, mais là, j'ai eu l'occasion de trouver que, en venant, qu'elle était bidon. Voilà, bon point. Et alors après, on peut me tout vient en droit. Hein. Moi, je suis hâtif de savoir comment on peut demander. Un patron peut à la place du CEO dire qu'un inspecteur, il a d'abord demandé pour entrave et ensuite pour chantage, et ça devient pour entrave 4 ans après. 4 ans après. Enfin bon. Pour ceux qui suivent, ils vont se dire mais quelle histoire de Brandzinc, quoi. De Brandzinc. Enfin bon, même le motif, enfin bon, me dire à moi, Gérard Filoche, qui depuis 30 ans me bat pour que les CEO vivent. Pour qu'il y en ait là où il n'y en a pas. Pour qu'il soit indépendant. pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Me dire que je suis en train d'un comité d'entreprise alors que je les défends énorme, comme la prunelle de mes yeux. M'engager dans un processus public avec un article dans Le Parisien où on a dit même le lieu de vacances où j'étais au moment de la première convocation. J'ai jamais demandé qu'on me donne le lieu de vacances. Je suis pas un riche touriste. Hein. Généralement, c'est Fram à 700 euros la semaine. tout compris. Avec l'avion. Non, mais je dis ça parce que ils m'ont sorti ça dans la presse. Je veux dire.
Ah oui,
ils se croient tout permis à partir de ce moment-là de dire vous êtes mis. Ils mettent mise en examen. Ils mettent même pas mise en examen dans l'exercice de ses fonctions. Il y a des gens qui m'ont dit mais qu'est-ce que t'as fait? Attends, il y a des gens qui me disent ça va tes ennuis? Mais j'ai pas d'ennuis. Hein. Je pète le feu. Ils m'ont cherché, ils vont me trouver. Je suis évidemment responsable de rien dans l'ensemble de cette procédure. Je devais partir en retraite. J'ai 63 ans. On me dit parfois, mais comment vous bossez encore à 63 ans? Parce que j'avais pas tous mes trimestres. Mes trimestres, je les ai eus en décembre dernier. Donc j'avais préparé ma mise en retraite pour le mois de juillet. Là, il faut 6 mois, mes dossiers. Je vous le dis, je ne pars plus.
Puisqu'on peut travailler jusqu'à 70 ans.
Je prends la retraite et je prends la retraite à 60 ans. J'ai commencé à travailler à 17 ans, moi. Alors, mais j'ai des années où on ne retrouve pas les.
On ne retrouve pas les trimestres.
Les trimestres. Bon, il y a prescription. Mais je peux tenir jusqu'à 70 ans. Hein. Je leur dis parce qu'ils voulaient se débarrasser de moi. Mais ils ne vont pas se débarrasser de moi comme ça.
Oui, c'est sûr, c'est nul.
Il y a eu des gens pour vouloir ça. Je ne suis pas parano. Pour engager cette procédure et essayer quelque part pas de me salir, je suis pas trop salissable, mais de ternir d'introduire du doute. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, il n'y aura pas l'ombre d'un doute quand je quitterai ce métier. Et si on peut remonter la machine et prouver que l'employeur est responsable de tout ce complot, moi j'en suis intimement convaincu. Ma conviction absolue, l'employeur est totalement responsable, il voulait se débarrasser de cette femme, il a inventé et monté les choses, et donc ça c'est la justice qui le dira. C'est mon point de vue contre le sien, et si on peut remonter là, il le paiera cher, parce que les patrons voyous, ils doivent être sanctionnés.
De toute façon, ils sont tous voyous.
Non, excusez-moi.
Ah bon?
Excusez-moi.
Ah bon, il y en a.
Plus d'un patron sur deux.
Plus
d'un patron sur deux est un délinquant, mais il en reste encore. Excusez-moi, qui respecte le droit, et moi je le respecte. J'ai vu d'ailleurs dans la pétition qui a été signée, ça m'a surpris, mais c'est avec plaisir, il doit y avoir une quinzaine de chefs d'entreprise qui ont signé la pétition pour soutenir en solidarité. Parce que, vous savez, au début, je ne pensais même pas. Je n'aime pas me défendre, comme tout le monde, j'aime mieux défendre les autres. Voilà, on m'a accusé. Je suis obligé de me le défendre. Et donc, mes amis ont fait une pétition. Alors, elle est sur Internet.
Oui, sur Internet.
Alors, je donne parce que www.solidarité-filoche.fr. Et bien, écoutez, on l'a mis en route il n'y a même pas 15 jours. Il y a 32 000 signatures ce matin. 32 000. Moi, je croyais qu'on allait avoir 2-3 000, quoi. Et j'ai étudié la pétition. Alors, pour mon ego, c'est pas bon, ça va me faire gonfler les chevilles, parce que je remarque, c'est toute la France, des salariés de toutes les catégories, vraiment de toutes les catégories, qui sont les plus divers, les métiers, les syndicats, tous les syndicats, ils marquent leurs étiquettes syndicales, ils marquent leurs étiquettes politiques, etc. Enfin, je suis, d'abord je remercie tous ceux qui ont signé, puisque au début, j'avais même fait pari avec Bob Ciné, mon copain Ciné, parce que cet été, il avait eu 27 000 signatures. Alors, moi, quand j'ai commencé à 2-3 000, il a signé, il m'a dit, t'as encore du chemin à faire pour... compétition fraternelle. Je lui ai dit l'autre jour, je suis loin devant maintenant. Par contre, ça fait moins de bruit. J'ai pas eu trouvé de médias pour relayer cette pétition. N'importe qui va sur le site, il y a un compteur. C'est une pétition en ligne, ça peut pas être fraudé. Ils sont dans l'ordre alphabétique, les 250 derniers. On voit, je dois avoir quelque chose comme un peu plus de 550 inspecteurs et contrôleurs du travail. Vous savez qu'on est à peu près un millier. Donc je vais pas tarder à avoir la totalité
des inspecteurs.
Et j'ai parmi les signataires deux anciens ministres du travail. Bah oui, Jean Roux et Martine Aubry. Oui. Et j'ai un ancien Premier ministre, Laurent Fabius, je le dis. Et surtout, j'ai quelqu'un qui est peu connu, mais il s'appelle Michel Lucas, et qui est le président de l'IGAS. L'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est en gros, c'est les inspecteurs des inspecteurs, quoi. Voilà. Donc après, je vous dis pas, dans le ministère du Travail, tout ça, etc. Bon. Et alors, pour vous dire... que Jean-Denis Combrexelle semblerait me refuser ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Alors, la protection fonctionnelle, c'est qu'un fonctionnaire, quand il est mis en cause dans l'exercice de ses missions, c'est l'administration qui paye les frais de justice. Je vais vous donner un exemple avec lequel je n'ai rien à voir, rassurez-vous. Le préfet Bonnet. Vous savez, celui qui en Corse avait brûlé une paillote. Et ben, il a eu la protection fonctionnelle pour se défendre. C'est l'État qui a pris en charge, parce qu'il était préfet, les frais de justice du préfet Bonnet. Moi, j'ai brûlé aucune paillote au 1 rue de la Paix. Mais pour l'instant, ils ne m'ont pas accordé la protection fonctionnelle pour payer mon avocat et les frais de justice éventuels. C'est quand même un peu énorme, parce que le texte est très précis. Pour ne pas avoir la protection fonctionnelle, il faut une faute détachable du service. On va avoir piqué dans la caisse, et on peut même dire que brûler la paillote, ça aurait pu l'être. Bon, enfin, voilà, détachable du service. Là, moi, j'étais parfaitement dans mes missions, dans mon boulot. Et je le répète, en le faisant le mieux possible. Je veux dire, même, je répète, je faisais l'effort même que normalement j'aurais pu ne pas faire, parce que si j'avais été routinier, j'aurais pas essayé de restaurer leur public social dans cette entreprise, quoi. Bon, alors là, je l'ai fait. Et alors, l'avocat de la maison Guidon, qui est maître Varro. Voilà, vous brûlez, hein. C'est, oui, ah ben c'est vous qui l'avez dit, moi je me permettrai pas, mais j'ai vu que dans le Parisien, il disait, c'est inspecteur qui depuis 30 ans, s'en prend au petit patronat parisien, alors c'est pas le petit patronat parisien, n'est-ce pas? Voilà, il a l'air malin maintenant. Donc on voit bien que le but n'est pas de défendre le CE, le but de me mettre en cause, dans les propos même de l'avocat, quoi, c'est, il révèle en fait ce qu'ils veulent faire, quoi. Bon. Voilà, alors donc tout ça, j'espère va s'éclaircir, d'abord que l'administration va finir par m'accorder la protection fonctionnelle. Pour l'instant, elle est dans un rejet implicite. Mais elle ne peut pas faire un rejet implicite. Il faut qu'elle me dise pourquoi. Elle me dit pourquoi.
Oui,
et si Combrexelle veut dire que c'est détachable du service, qu'il le prouve. Bon. Et ensuite, on verra les délais de justice, parce que moi, je ne sais pas.
Et en quoi la pétition peut-elle infléchir une décision, le fait d'avoir
des dizaines de milliers de gens qui disent écoutez, il fait son boulot, comment vous pouvez prétendre qu'il a. Qui met en cause un travail, un CE. Bon, c'est pas mal. Deuxièmement, inspecteurs du travail et médecins du travail sont tous des signataires en masse, hein. C'est pas rien, quoi.
Oui.
Bon, après, j'ai les 7 syndicats de l'inspection du travail qui me soutiennent. Ça arrive quand même à faire la quadrature du cercle, parce qu'il n'y en a pas un qui manque. La CFTC me soutient. Ils ont même fait un truc pour signer la pétition. Je les en remercie.
C'est la fonction qui est atteinte, quoi.
Je remercie la CGT qui se bat pour. Je remercie la FO et UNSA.
Et là, ils ont fait.
Sud, le SNU, CFDT, qui ont tous, pris position pour ma défense dans les services, quoi. Je remercie tous les collègues, parce que quand je regarde la liste des collègues, là, j'ai regardé les 500 premiers noms, j'en avais, excusez-moi, des larmes aux yeux, parce que bon, c'est des gens, j'ai fait beaucoup de réunions publiques en province, ils viennent souvent, mes collègues, inspecteurs et contrôleurs, dans les réunions, en me disant c'est bien, etc. Bon, ben, c'est autre chose en plus après que de signer, etc. Je sais que parfois c'est pas toujours bien pris que je parle dans les médias, pour certains. C'est dans tous les métiers pareil, c'est toujours une discussion. Parfois, en parlant dans des médias, je fais plus que par un procès verbal. Comme ça, on dit le droit, on sait que ça a des ricochets et que ça a une diffusion.
C'est un moyen de défense.
Et je répète, l'OIT nous donne pour mission d'alerter les gouvernements en place sur le sort qui est fait aux salariés. Entre 1906 et 1912, il y avait un inspecteur du travail qui s'appelait Pierre Hampe, H-A-M-P, Pierre Hampe, et qui écrivait dans l'Humanité, le journal dirigé à cette époque-là par Jean Jaurès en personne, une chronique régulière dans laquelle il décrivait ce qu'il voyait dans les entreprises et l'indignation qu'il en ressentait. Je trouve que ce qui était fait entre 1906 et 1912 doit pouvoir être fait entre 2006 et 2012.
C'est une régression,
sérieusement. Et je n'arrive pas à la cheville de Pierre Hampe, mais je tente de faire ce travail d'information. Et puisqu'ils ne veulent pas que je pars en retraite, ils vont encore en entendre.
Ben, merci beaucoup, Gérard, pour toutes ces explications. Donc, si vous avez des questions à poser, vous allez sur le site. Où, bon, nous, on s'était rendu compte de cette aventure, bien sûr, en lisant Ciné Hebdo. Et d'ailleurs, Ciné viendra ici à l'antenne au mois de mars. Donc, si vous voulez revenir, j'ai demandé à
Guy Bob,
avec Guy Baudos. Donc on redonne le site de la pétition. Alors, Gérard, allez-y.
Non, mais c'est www, parce que c'est point solidarité, tiré, parce que tiré, filoche.fr.
D'accord. Donc,
Il y a des gens qui se plantent parce qu'ils mettent point à la place de tiré. Alors, solidarité, tiré, filoche.fr.
Il y avait un petit truc que j'avais bien aimé dans les explications, c'est les heures supplémentaires qui sont appelées heures philanthropiques.
Oui, c'est vrai.
Ah,
c'est vrai.
C'était.
C'est vrai, parce que dans ce siège.
C'est pas trop là.
Il faisait
41 heures. Philanthropiques.
Ouais. C'est marqué 35 heures sur la feuille de paye. Alors ils appellent les autres heures, entre 35 et 41, ils appellent les heures philanthropiques. Voilà, c'est bon. Ah, mais je suis pas rentré dans le détail par ailleurs.
Oui. Dans l'entreprise. Ah oui, non, mais c'est assez intéressant.
Il y a par ailleurs des journalistes qui fassent de l'investigation dans des grands médias. Je voudrais bien qu'ils aillent voir, c'est pas mon boulot, hein.
Ah ouais,
de ce point de vue, ce qui se passe là-bas. Hein,
ouais.
Voilà. Et puis par ailleurs, j'en ai assez que mon directeur général du travail m'envoie des messages sur messages du genre il faut pas qu'il s'exprime. J'ai reçu une lettre sur le thème. Il a parlé dans M6, dans l'émission Capital. Alors il me dit vous faites pas votre boulot. J'étais en train de faire mon boulot. J'étais filmé. J'ai même fait un arrêt de travaux. Vous avez pas demandé l'autorisation. Oui, c'était vrai, c'était en novembre, c'était sur M6, mais après, il y avait le ministre du Travail sur le plateau, et le journaliste lui dit, Monsieur Bertrand, alors qu'est-ce que vous pensez de la séquence, hein? Et Xavier Bertrand, il répond, ça prouve que l'inspection du travail fait son boulot. On peut pas, n'est-ce pas, avoir meilleur compliment par son ministre,
hein? Ben, merci beaucoup, et puis, on suit cette affaire, hein, à suivre. Merci.
C'est moi, je vous remercie.